Et c'est l'heure du national. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter le National. Une fois encore, je suis allée voir dans les journaux francophones canadiens ce qui se disait, ce qui s'écrivait, sur quel sujet les journalistes francophones s'épanchaient-ils. Eh bien, cela donne ceci. Alors, on parlera de biodiversité à Niagara Falls, d'un musée qui est à la recherche de photos de Queensland, d'une jeune autiste qui a trouvé sa place grâce au sport. On parlera de l'immigration, immigrer au Canada, un véritable parcours du combattant, peut-on lire dans le Franco de Calgary. Également, parmi ceux qui dormiront en prison ce soir, beaucoup sont légalement innocents. C'est un papier qui nous vient de laliberté.ca. Acadie Nouvelle, une première clinique de sage-femme au Nouveau-Brunswick, et puis l'hebdomadaire francophone du Nord canadien, l'Aquilon, qui nous présente le Nunavut, dernière bouture des territoires du Nord-Ouest, et le rêve nationaliste. Et puis enfin, peut-être qu'on ira en Nouvelle-Écosse pour terminer l'émission. Alors, on commence avec le régional.com. Nous sommes en Ontario, où il est question de la biodiversité de la province qui se déploie à Niagara Falls. Une exposition bilingue présentée par le Little Ray Zoo met en évidence au Conservatoire de papillons du Niagara la riche biodiversité de la province et notamment les cinq principales classes d'animaux, mammifères, oiseaux, poissons, invertébrés, reptiles et amphibiens qui la peuplent. Jusqu'au 29 avril à Niagara Falls, le public peut observer de près des espèces en voie de disparition, telles que l'effraie des clochers, reconnaissable à son chuintement rauque, son visage blanc en forme de cœur et sa robe dorée. Cette chouette, présente dans le sud de l'Ontario, niche dans le creux des arbres ou des falaises, même parfois dans les granges. Autre animal en voie de disparition, visible au sein de l'expo, la tortue des bois. Vivant sur la terre ferme dans les zones boisées à proximité des cours d'eau, elle est menacée par la dégradation de son milieu naturel par l'homme, mais aussi la prédation des ratons laveurs. Le public pourra la voir de près, de même que sa cousine, la tortue ponctuée. Préférant les étangs et les marais, cette tortue semi-aquatique est facilement identifiable à sa carapace noire tachetée de points orangés. Cresserelles d'Amérique, porc-épic, moufette, rainette grise, salamandre tachetée, couleuvre rayée et brochet sont aussi au programme de cette exposition qui comprend des panneaux d'information en français détaillant la morphologie, l'habitat et les habitudes de chaque espèce ainsi que les initiatives pour les sauvegarder. Les animaux présentés proviennent d'un large éventail d'habitats en Ontario, explique Corey Burrant, gestionnaire de projets au parc du Niagara. Certains peuplent les zones urbaines, d'autres préfèrent les forêts matures, les zones humides ou les prairies ouvertes. La plupart d'entre eux étant nocturnes, c'est une bonne occasion de les observer et d'en apprendre un peu plus, notamment sur leur fragilité, car plusieurs sont en danger et protégés par des lois telles que la loi sur la protection de la faune et du poisson ou la loi sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario. C'est aussi un moment idéal pour petits et grands de se familiariser avec les trois zones géographiques distinctes de la province, se démarquant par une géologie et un écosystème spécifique. Les basses terres de la baie d'Hudson, le bouclier ontarien et dans le sud, les plaines à forêt mixte qui s'étendent de Windsor à Ottawa et du Niagara au lac Simcoe. J'espère bien le prononcer. La péninsule se situe plus particulièrement dans la zone de la forêt carolinienne, précise M. Burrant, car son climat est semblable à celui des Carolines aux États-Unis. Cette forêt représente aussi l'aire de répartition nordique de nombreuses espèces d'arbres, le tulipier, le sassafras, d'oiseaux, le piranga écarlate, le pique-à-tête rouge et de mammifères tels que l'écureuil volant et l'opossum de Virginie. L'exposition apprend toutefois au public que l'escarpement du Niagara influence cet écosystème en raison de son impact sur le climat, au-dessus et au-dessous de l'escarpement et de la roche calcaire exposée, qui est habitée par diverses espèces végétales et animales uniques. C'est à découvrir au Conservatoire de papillons du Niagara jusqu'au 29 avril prochain. Dans la Voix du Nord.ca, nous sommes encore en Ontario, le musée de Callander, du patrimoine de Callander, espère trouver de nouvelles images du parc thématique Quinlan pour une exposition d'artefacts des quintuplés Dionne qui va débuter le 26 mai prochain dans le cadre de l'anniversaire de la naissance des jumelles Dionne. Ça, ce sera le 28 mai, donc précisément. Quinlan, qui était à l'époque, qui était situé à Callander et qui a été administré par la province pendant 9 ans, entre 1934 et 1943, et a accueilli plus de 3 millions de visiteurs et de touristes qui voulaient voir les 5 jumelles Annette, Cécile, Émilie, Marie et Yvonne Dionne en personne. La conservatrice du musée, Natacha Viater, explique que certaines photos seront utilisées pour des fins de recherche et d'autres pour l'exposition. Nous espérons démontrer au public comment Quinlan était reconnu comme le Coney Island du nord de l'Ontario. Plusieurs millions de gens se sont présentés au milieu de nulle part pour vivre cette expérience. Les jumelles Dionne étaient présentées chaque fois par jour et en raison de leur popularité grandissante avec les visiteurs, plusieurs nouveaux édifices ont été construits sur le terrain, rappelle Madame Viater. Lorsqu'on compare 4 ou 5 photos des installations, on remarque que le paysage et les édifices de Quinlan étaient en constante évolution. Le gouvernement de l'Ontario, le père des jumelles Dionne, Olivia, et les sages-femmes ont vu des opportunités d'affaires à l'époque. Les images nous démontrent que, entre autres, les boutiques et la pouponnière étaient toujours en pleine transformation pour accommoder les milliers de gens qui venaient quotidiennement. Au cours des dernières semaines, le musée de Callander a approché plusieurs musées et détenteurs d'artefacts des jumelles Dionne d'autres régions afin de leur demander des copies de leurs photos des édifices de Quinlan. Pendant la Grande Dépression, seuls les touristes avec les moyens de se permettre un voyage comme celui-ci se faisaient prendre en photo lors de leur séjour dans la région. On remarque que plusieurs de ces images se retrouvent dans des collections privées partout en Amérique du Nord. Il y a certaines photos professionnelles ou journalistiques qui ont été prises, mais la plupart des photos qu'on observe ont été prises par des touristes devant la maison des Dionne. S'ils avaient les moyens de pouvoir voyager ici, ils avaient certainement de l'argent pour acheter une caméra et documenter leur parcours, ajoute Madame Viater. Le gouvernement fédéral a annoncé la semaine dernière que la naissance des jumelles Dionne obtenait la désignation d'événement historique national. La naissance prématurée et la survie de 5 bébés identiques, de très petite taille, a constitué un événement sans précédent qui a suscité une attention internationale. La naissance et les soins post-nataux des quintuplés, qui se sont déroulés dans des circonstances difficiles et sans accès à de l'équipement médical ou aux hôpitaux, ont étonné le monde médical, peut-on lire dans le communiqué. Le musée a déjà une bonne collection d'artefacts des jumelles Dionne.
Nous partirons seuls. Nous partirons.
Louis-Jean Cormier, l'excellent Louis-Jean Cormier, sur les ondes de Canal M. On poursuit cette émission, Le National. Nous sommes restés dans lavoixdunord.ca, un journal francophone qui nous vient d'Ontario, où on nous raconte comment une autiste a trouvé sa place grâce au sport. Le 2 avril dernier était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, faut-il le rappeler. À Sudbury, les bienfaits de l'exercice physique sur le corps et l'esprit sont bien connus. Les enfants qui vivent avec un syndrome du spectre de l'autisme ne font pas exception à la règle. Preuve à l'appui. À l'appui, Audrey-Anne Swenens, une élève de l'école secondaire McDonald Cartier, qui a connu beaucoup de succès en ski paranordique au cours des dernières années. Elle n'a pourtant pas commencé avec le ski de fond, c'est l'envie de jouer au hockey qui l'a initialement amenée sur une patinoire. Mais c'est le patin artistique qui a été son tremplin vers les sports de compétition. Simplement apprendre à patiner a été plus long, environ 3 ans avant qu'elle soit autonome sur la glace, à l'âge de 9 ans. Oui. Sa mère, Sylvie Duprat, l'a accompagnée tout au long de ce cheminement. Elle n'était pas capable de faire de la compétition au début, elle avait peur de tomber, elle avait peur du jugement des autres, ça la rendait très très anxieuse. À sa dernière année de patin, elle en a fait une et elle a vraiment bien fait, une compétition bien sûr. C'était une compétition d'improvisation et tout le monde pleurait, même les juges. À son arrivée en 9e année, Audrey-Anne a décidé d'essayer le ski de fond. Ce que l'on ne savait pas, c'est que l'entraîneur de McDonald Cartier, Louis Roberge, avait invité Patty Kidler, une entraîneur responsable du développement de programmes de ski paranordique en Ontario en 2007, et elle a pris Audrey-Anne sous son aile. M. Roberge se souvient bien des premières pratiques d'Audrey-Anne et a une anecdote qui démontre bien la progression de la skieuse. Pour descendre les côtes, au lieu d'être debout ou accroupie, elle mettait les genoux et les mains sur les skis, donc elle était à 4 pattes. Je n'avais jamais vu ça, j'avais tellement peur qu'elle frappe un arbre. Audrey-Anne a toujours pratiqué ses sports à sa façon à elle parce que ça fonctionne, confirme sa mère. À sa première année, à la compétition provinciale de la Fédération des associations de sport scolaire de l'Ontario, ça porte un acronyme, l'OFSAA, en 2015, Audrey-Anne a remporté une médaille d'argent. Ça a chargé les batteries de ma fille, illustre Madame Duprat. Les perceptions qu'elle avait d'elle-même, comme toujours être la dernière de classe, de ne pas être capable de faire comme les autres, ont ainsi changé. Elle a compris qu'elle aussi avait sa place quelque part. Avec l'appui de son père, Luc Soenens, Audrey-Anne a continué à s'entraîner, même en été, et a participé à des camps d'entraînement. Louis Roberge confirme qu'elle a passé beaucoup de temps avec Madame Kittler, ce qui lui donne même la chance de parfois s'entraîner avec Colin Cameron, qui revient des Jeux paralympiques de Pyeongchang avec 2 médailles de bronze en biathlon assis. En 2016, elle a remporté l'or au OFSAA, et là, ça a changé ses circuits, elle a finalement compris qu'elle était capable et qu'elle aussi pouvait faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Une semaine avant la compétition au FSAA en 2017, Audrey-Anne a décidé d'apprendre le ski de patin, une technique de propulsion plus exigeante. Son inexpérience avec cette technique ne l'a pas empêchée de remporter une autre médaille d'or. De grands exploits donc pour une enfant que les médecins ne voyaient pas dépasser. La 5e année. Comme pour beaucoup d'enfants autistes, les parents d'Audrey-Anne doivent passer beaucoup de temps avec leur fille et ont aussi eu un rôle à jouer dans ses succès. Ils la poussent à faire l'effort, l'encouragent et s'entraînent avec elle, etc. Au moins, quand elle s'entraîne, elle a des amis avec qui elle fait les mêmes choses. C'est une enfant qui apprend quand elle fait. tous les voyages qu'elle fait l'aide avec la géographie, avec son anglais, avec sa socialisation. Et le sport est vraiment une des meilleures choses pour l'aider, confirme la mère d'Audrey-Anne. Tout le monde le dit, on l'a vu grandir avec le ski. Monsieur Roberge note aussi les progrès d'Audrey-Anne à travers les compétitions. Au début, il dit « je devais l'accompagner au podium ». Maintenant, il l'appelle et elle monte seule sur l'estrade. Elle a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là également. Toujours à la poursuite de ses rêves, Audrey-Anne a commencé à faire de l'équitation il y a 2 ans. Là encore, c'est un succès rapide avec une 3e place dans sa catégorie à sa première année de compétition. Avant d'entrer dans le monde des compétitions sportives, Audrey-Anne était très gênée. Elle était toujours en dessous de mes jupes. Elle avait des attelles pour ses jambes, raconte sa maman. On a tout fait parce que je crois fermement à la neuroplasticité. La neuroplasticité, dans sa définition la plus large, est la capacité du cerveau de se modifier afin de s'adapter et apprendre. Mais ce processus peut être aussi contrôlé et planifié. Avec les succès que connaît sa fille, Sylvie Duprat est encore plus convaincue que ça fonctionne. Louis Roberge a aussi remarqué que son corps peut prendre plus de temps à apprivoiser un mouvement, mais qu'une fois il est acquis, elle peut être aussi bonne et performante que les autres athlètes. Audrey-Anne est même maintenant heureuse de participer à l'entraînement des débutants de l'équipe de ski de fond de son école. Tu vois qu'elle est fière de pouvoir montrer ce qu'elle a appris à quelqu'un d'autre. C'est vraiment le fun de voir ça, indique M. Roberge. Voilà, un très très beau témoignage qui, je vous le rappelle, est paru dans La Voix du Nord sous la plume de Julien Caillouette.
J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment on fait pour entrer dans vos vies pour de vrai. J'aimerais ça être votre ami, mais j'ai trop peur de me fendre. Je suis l'enfant scaphandre. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment ça marche pour être admis à bord de votre arche. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment me vendre. Je suis l'enfant scaphandre. Vous êtes libre et grand dans la lumière. Mes trésors très ordinaires. Entendrez-vous ma voix qui se brise dans ma visière? Votre ami pour gravir les mêmes falaises, prêt à vivre des silences sans malaise. J'aimerais ça être votre ami pour graver des choses vraies, mais j'écris sous la pluie à la craie. Je sais pas être votre ami, et je n'ai plus qu'à me rendre au pays des enfants scaphandres. Faut passer entre le vent et la poussière, ramer jusqu'à ce que le ciel touche à la mer. Là-bas, paraît qu'on peut s'ouvrir sans manquer d'air.
C'est ce qui s'appelle savoir écrire une chanson, des chansons, Émile Proucloutier. L'enfant scaphandre sur les ondes de Canal M, ne serait-ce que pour cet enfant-là, tiens, faudrait bien qu'on l'invite un de ces jours, Émile Proucloutier. Alors, vous écoutez toujours Le National sur les ondes de Canal M, c'est Clotilde Say qui passe en revue pour vous les journaux francophones, donc tout ce qui s'écrit en français dans notre beau grand pays d'est en ouest. Cette fois-ci, allons vers Calgary, je suis dans le franco. De Calgary, et avec un papier qui a attiré mon attention, peut-être parce que je suis une vieille immigrante, ça fait belle lurette que j'ai immigré, j'ai passé plus de la moitié de ma vie ici, et il y a ce papier qui s'intitule « Immigrer au Canada, un parcours du combattant ». Je peux vous dire que ça l'était déjà à l'époque, et apparemment ça l'est encore, écrit Luca Pilleri ou Pilleri. Marjorie Lezin-Laurent, ancienne employée du café Bicyclette à la cité francophone d'Edmonton, témoigne de son parcours semé d'embûches pour devenir résidente permanente au Canada, un périple emblématique de milliers d'autres chaque année. Tous les ans, environ 200 000 nouveaux résidents permanents sont accueillis au Canada. Marjorie Lezin-Laurent, elle, espère elle aussi en faire partie. Venue au Canada en 2015, depuis la France, la jeune trentenaire a écumé les démarches administratives pour pouvoir rester. Tout commence avec la première étape de son aventure migratoire, le fameux PVT, le programme vacances-travail, objet de toutes les convoitises en France. Il offre aux jeunes Français de moins de 35 ans un permis de travail ouvert, utilisable pour n'importe quel employeur valide pendant 2 ans et sans aucune exigence. En 2016, ils étaient plus de 40 000 à en faire la demande pour moins de 7 000 places. Les places sont parties en moins de 5 minutes, relate Marjorie, qui a dû faire preuve de rapidité sur son clavier pour postuler et être tirée au sort. C'est le jeu de la loterie. C'est dommage, car certains utilisent le PVT pour seulement 3 mois, alors que d'autres en profitent pleinement pendant 2 ans pour ensuite s'établir à long terme au Canada, observe-t-elle. Installée en Alberta au cours de l'automne 2016, la jeune Française a travaillé comme serveuse au café Bicyclette à Edmonton, au cœur de la cité francophone. Son PVT étant non renouvelable, elle a dû entamer des démarches administratives pour pouvoir rester là. Et là commencent les tracas. Premier coup dur. « Mes études ne sont pas reconnues au Canada », regrette-t-elle. C'est en fait le cas de milliers de nouveaux venus qui, docteurs, ingénieurs ou comptables dans leur pays d'origine, ne peuvent exercer leur profession sur le sol canadien et sont souvent obligés de retourner à la case départ. Marjorie considère alors le système Entrée Express. Lancé en janvier 2015, il offre la possibilité chaque année à près de 30 000 nouveaux arrivés de devenir résidents permanents, basé sur un système de points prenant en compte le niveau d'éducation, l'expérience professionnelle et d'autres critères. Problème, il faut cumuler 1 an d'expérience canadienne dans un emploi dit « qualifié », ce qui n'est pas le cas de Marjorie, qui est serveuse. Reste alors le programme Mobilité francophone, qui vise à augmenter la proportion de francophones en dehors du Québec. Mais là encore, l'expérience de Marjorie ne correspond pas. Je n'y étais pas admissible car mon travail ne faisait pas partie d'un emploi qualifié. Et la nomination provinciale ? Une loi est passée en mars 2017 en Alberta pour retirer le secteur de la restauration, ce qui empêchait mon employeur de me sponsoriser. Toutes les portes sont fermées. Marjorie décide alors de consulter un avocat spécialisé qui est très clair, il fallait que je me marie avec mon compagnon qui, lui, avait un travail. Aujourd'hui, après de nombreuses démarches, Marjorie a déposé sa demande de résidence permanente auprès du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ça fait déjà 3 ans hein, qu'elle est là. Mais c'est au tour de la RSA, Réfugiés et Citoyenneté Canada, c'est l'IRCC. Mais c'est au tour de la machine administrative de faire des siennes. Le gouvernement a fait des erreurs avec mon dossier. Évoque-t-elle. L'officier en charge du dossier a considéré sa demande incomplète car l'acte de naissance de Marjorie était rédigé en français, pourtant l'une des 2 langues officielles. C'est hallucinant quand même. Après une plainte et des excuses de la part d'IRCC, la demande de la jeune femme a été rouverte en juillet 2017. Le hic, son permis de travail avait entre-temps expiré à cause de cette erreur. « Je me suis retrouvée pendant 7 mois sans travail, commente-t-elle. 7 mois sans revenu, sans chômage et sans sortie du territoire possible. À cela, il faut ajouter tous les frais associés à ces démarches. Car l'immigration est un business juteux. Au total, c'est plus de 12 000 $ qu'aura déboursé la jeune femme, entre les frais d'avocat, les frais administratifs, les tests de français et les visites médicales. En février de cette année, un nouveau permis de résident temporaire a été finalement accordé à Marjorie Lezin-Laurent. Elle pourra travailler jusqu'au résultat de sa demande de résidence permanente. La jeune femme croise désormais les doigts dans l'attente d'une réponse favorable, comme des dizaines de milliers d'autres personnes dans son cas. J'avais envie de vous lire ça, parce que voyez-vous, maintenant, quand vous allez croiser éventuellement un ou plusieurs Français, qui, c'est vrai qu'ici à Montréal, on en trouve de plus en plus, et on se dit, mais dites-vous que la plupart d'entre eux vivent tous ce, entre guillemets, calvaire-là, pour parvenir à leur fin. Alors dites-vous que s'ils ont choisi le Québec et s'ils y restent avec, avec leurs airs de beaux gosses et leurs belles dents blanches et leurs gros accents français, eh bien c'est quand même une fichue de décision et ça prend quand même pas mal de caractère finalement. Voilà, je vous rappelle que vous écoutez Le National sur les ondes de Canal M. C'est Clotilde Say qui vous lit des extraits ou l'entièreté de papiers qui sont écrits, rédigés par des collègues journalistes de la presse écrite dans les régions francophones du Canada. En seconde partie, nous irons dans, nous retrouverons laliberté.ca et nous aborderons ces prisonniers qui sont légalement innocents. Il sera question de la première clinique de sage-femme au Nouveau-Brunswick et il sera question du Nunavut, la dernière bouture des territoires du Nord-Ouest et de son rêve nationaliste. Tout ça donc dans quelques secondes sur les ondes de Canal M.
J'espère faire valser les vieux fantômes jusqu'à la limite de nos origines pour qu'on puisse donner au soleil son diplôme. Le ménage se fera sans garantie légale. Je regarde au loin, mais les fenêtres sont sales. Faudra au moins s'assurer qu'elles donnent sur l'avenir. Tes bras comme une muraille protègent mon territoire. Viens-t'en régner sur mes détails et nous passerons.
Ensemble.
depuis que tu m'as tapissé d'une amabonde pour pouvoir guider mes ardeurs vagabonds. Et le métier entre mon CV est à jour. Me laisseras-tu postuler?
Bienvenue à l'émission Le National, c'est la seconde partie, Clotilde Seyer, votre compagnie, et musicalement, c'est le groupe Tire le Coyote qu'on vient d'entendre en guise d'ouverture. On se retrouve tout de suite dans laliberté.ca avec un papier qui concerne ceux qui dormiront en prison ce soir et dont beaucoup sont légalement innocents. C'est Valentin Cueff, qui nous propose ce papier-là. Valentin Cueff qui écrit au sujet de Howard Sapers, qui a enquêté au cœur des prisons fédérales pendant 12 ans. Et M. Sapers, il est désormais conseiller indépendant auprès du gouvernement provincial de l'Ontario en matière de réforme correctionnelle. Sollicité par La Liberté, il offre un regard pertinent sur un système qui se nourrit de lui-même. Je vous ai dit Valentin Cueff, non pas du tout, c'est Barbara Goran et c'est une collaboration spéciale de Mme Goran pour laliberté.ca. Après 12 ans passés à arpenter le système carcéral canadien, quel est votre constat? Demande-t-on à M. Sapers. Il répond, entre 2004 et 2016, chaque année, à l'exception d'une fois, la première des plaintes que m'adressaient les détenus concernait le manque d'accès aux soins. Ce qui inclut la santé mentale, l'accès à un spécialiste, la prise en charge des maladies chroniques, le traitement des douleurs chroniques. Et lorsqu'on sait qu'un quart de la population carcérale est âgée de plus de 50 ans, cela pose un véritable problème, le premier problème grave. On a tendance à penser que les prisons abritent une population jeune de 20 ou 25 ans, alors qu'en réalité, la population carcérale vieillit et qu'avec l'âge surviennent de plus grands besoins en matière de santé. Un deuxième problème majeur auquel il faut répondre est la surreprésentation année après année d'une population carcérale composée d'hommes et de femmes autochtones. Et enfin, le troisième problème principal concerne la part toujours plus importante de détenus souffrant de troubles mentaux, avec tout ce que cela implique, blessures auto-infligées, décès prématurés en détention, recours excessif aux cellules d'isolement. Le taux de suicide en prison est 6 fois supérieur au taux de suicide de la population canadienne, indique le Bureau fédéral de l'enquêteur correctionnel. Sûrement d'ailleurs là un autre sujet d'étude. Il répond, M. Sapers, absolument. Pour l'une des enquêtes que j'ai menées, nous nous sommes penchés sur 30 suicides survenus en 3 ans. Ce que nous avons découvert, c'est que près de la moitié de ces suicides, soit 14 d'entre eux, s'étaient déroulés à l'isolement. Cela en dit long sur qui sont les détenus placés à l'isolement et combien cette mesure les affaiblit. Cela devrait être l'endroit le plus sûr et le plus surveillé de l'institution. Pourtant, des détenus y trouvent le moyen de mettre fin à leur vie. C'est troublant. Quelle est, à votre avis, demande-t-on à ce spécialiste, la meilleure façon de gérer des détenus membres de gangs? Il explique plusieurs opinions à ce sujet. Le principe général en matière de gestion de la population correctionnelle, c'est de normaliser la population le plus possible. Alors, quand il s'agit de gangs, cela revient à les mêler le plus possible aux autres détenus dès lors que cela ne cause pas de problème de sécurité. Dans de nombreux établissements, cela prend du temps. C'est une négociation constante pour que des membres de gangs différents sortent de la mentalité de gang, justement. À nouveau, il y a plusieurs stratégies possibles. L'approche qui semble faire consensus est de normaliser et de socialiser, de sociabiliser la population d'une façon qui ne discrimine aucun groupe ni ne place les intérêts d'un groupe au-dessus des autres. Alors qu'en est-il de la surpopulation carcérale? Elle mène à toutes sortes de problèmes. Quand une prison compte plus de monde que ce qui était prévu, cela mène à une situation de compétition permanente. Pour l'espace, pour l'accès aux services et aux programmes, le personnel n'a pas les moyens de travailler correctement et évidemment, il n'est pas assez nombreux. Les effectifs sont basés sur une équation en fonction du nombre moyen quotidien de détenus. Or, quand ce nombre est dépassé, vous ne pouvez pas avoir plus de gardes, d'infirmiers, de psychologues, de ludothérapeutes, etc. Et quand il y a une compétition, il y a des gagnants et des perdants, et ça se résout parfois par la violence. On lui demande ce qu'il sait de la situation au Manitoba. Il dit « Écoutez, pour l'instant, je porte surtout mon attention sur l'Ontario, mais dans le cadre de mes recherches, j'ai visité des prisons au Manitoba. Le système carcéral y est confronté aux mêmes défis que partout ailleurs, que ce soit dans les établissements fédéraux, provinciaux, surpopulation, faible accès aux soins, etc. Je pense que le plus gros problème, dit M. Saper, c'est le recours abusif à la détention préventive. La plus forte hausse au Canada en matière d'incarcération ces dernières années a été l'incarcération de personnes qui n'ont pas encore été condamnées. Parmi ceux qui dormiront en prison ce soir, la plupart sont également, légalement, innocents. À un temps, un tiers de notre population carcérale attendait un procès et les deux tiers restants purgeaient une peine. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Nous constatons régulièrement que 60 à 70% de nos détenus au Canada attendent que leur caution soit fixée ou attendent de comparaître ou encore même attendent un verdict.
Regardant le mur de la prison d'en face, j'entends tous les ragots et les bruits des autos, boulevard Arago qui passe sur les toits des maisons qui servent d'horizon, un bout de la tour Mont. On voit les gens dans les maisons d'en face. L'été, les marronniers les cachent aux prisonniers et les bruits du quartier s'effacent. Quand l'école a fermé, combien ont dû penser au jour de la rentrée. Regardant le mur, j'imagine à sa place les grillages ouvragés d'un parc abandonné, explosant de rosiers d'espace. Les grillages ouvragés d'un parc abandonné, où les arbres emmêlés. Regardant le mur de la prison d'en face, le cœur un peu serré d'être du bon côté, du côté des autos, je passe. Et du toit des maisons qui ferment l'horizon, un morceau de la tour dépasse. Thank you.
Ça, c'est une chanson qui s'imposait après le précédent sujet que je vous ai proposé dans le cadre de l'émission Le National. Des prisons alors et du Manitoba et de l'Ontario, on passe complètement à un autre sujet. Il sera question des sages-femmes et de ce qui se passe, de cette première clinique de sages-femmes qui est née au Nouveau-Brunswick. C'est dans le journal l'acadienouvelle.com. Une première clinique de sages-femmes donc au Nouveau-Brunswick. Les employés de cette première clinique de sages-femmes de la province ont procédé à l'inauguration de leurs nouveaux locaux jeudi à Fredericton. Les femmes enceintes de la région de la capitale provinciale peuvent dorénavant être accompagnées gratuitement pendant et après leur grossesse par l'une des trois sages-femmes de la clinique. L'établissement fait partie du réseau de santé Horizon et ses services sont couverts par l'assurance maladie. Si l'expérience de Fredericton s'avère concluante, le ministère de la Santé pourrait étendre l'initiative dans d'autres régions de la province. La profession de sage-femme est reconnue officiellement au Nouveau-Brunswick depuis 2010. Ce n'est cependant que depuis la fin de l'an dernier que leur pratique a commencé à être progressivement intégrée au système public de santé. Ce fut pour nous un long parcours au Nouveau-Brunswick avant d'avoir une première pratique de sage-femme en milieu communautaire. Mais notre expérience depuis a été tout simplement incroyable, a déclaré la sage-femme Kate Leblanc lors de l'ouverture officielle de la clinique. Depuis le mois de novembre, les sages-femmes ont participé à 15 accouchements, dont 4 naissances à domicile. Nous sommes très optimistes vis-à-vis de l'avenir du programme au Nouveau-Brunswick, a dit Madame Leblanc. Le ministre de la Santé, Benoît Bourque, la vice-présidente des services cliniques du réseau de santé Horizon, Géry Geldart, et la sage-femme Kate Leblanc s'expriment dans ce papier qui, je vous le rappelle, nous vient de l'Acadie Nouvelle et où l'on nous dit « si l'optimisme des sages-femmes de Fredericton s'avère fondé, le reste de la province pourrait aussi en bénéficier », à laisser entendre le ministre de la Santé, Benoît Bourque. C'est mon souhait personnel de voir que cette initiative-là pourrait être étendue ailleurs dans la province, a-t-il mentionné, sans toutefois en faire un engagement formel de son gouvernement. La province veut notamment analyser le fonctionnement de la clinique de Fredericton avant de prendre une décision concernant l'avenir du programme dans d'autres régions. Je ne peux pas vous dire quand, mais jusqu'à présent, les statistiques et les commentaires démontrent que c'est un succès et c'est un succès que l'on voudrait dupliquer ailleurs dans la province. Le ministre Bourque possède d'ailleurs une connexion personnelle avec le métier de sage-femme puisque sa mère a été formée dans le domaine en Angleterre à la fin des années 60. Elle n'a jamais pu pratiquer la profession de sage-femme, du moins officiellement. J'espère qu'elle est aussi fière que moi que l'on puisse mettre de l'avant ce programme au Nouveau-Brunswick. Les sages-femmes de Fredericton ont emménagé dans leurs nouveaux locaux la semaine dernière. Elles travaillaient temporairement dans le centre de santé communautaire du centre de ville de Fredericton depuis le mois de novembre. Une quatrième sage-femme est sur le point de s'ajouter à leur équipe. En plus de l'accompagnement durant et après la grossesse, les sages-femmes peuvent prescrire des tests courants et des analyses en laboratoire ainsi que certains médicaments. Les femmes enceintes de la région de Fredericton qui souhaitent profiter des services d'une sage-femme peuvent s'adresser directement à la clinique sans passer d'abord par un médecin ou une infirmière praticienne.
La pilule ou la querelle. Des instants. conditionnel. La pilule vaut ses chandelles. C'est risqué de te convaincre. J'aurai ton enfant quand même.
Sur Canal M, ce petit intermède musical vous était proposé par Sally Falk et par Mathieu Tessier qui signe le choix musical également de cette émission. Alors, tiens, pouf, un coup d'avion, on se transporte au Nunavut, dernière bouture des territoires du Nord-Ouest et rêve nationaliste. C'est le titre du papier de Denis Lord que j'ai trouvé dans l'Aquilon.ca. .nt.ca, d'ailleurs exactement, l'hebdomadaire francophone du Grand Nord canadien. Dans Let's Move On, le premier ministre de l'histoire du Nunavut, Paul Okalik, se confie à l'ancien journaliste de l'Aquilon, Louis McCumber, sur son parcours personnel et politique, sur la destinée du territoire qu'il a contribué à fonder. On ne connaît pas vraiment l'importance de la création du Nunavut aujourd'hui au Canada, déplore Louis McCumber. Au Québec, moins qu'ailleurs, où même les gens cultivés ne font pas la différence entre le Nunavut et le Nunavik. Et pourtant, le Nunavut a été et est toujours la seule entité politique majoritairement autochtone représentée à Ottawa. C'est la dernière bouture après le Yukon, le Manitoba, etc., des territoires du Nord-Ouest, précise Louis McCumber, et en quelque sorte la réalisation du rêve de Louis Riel d'un gouvernement autochtone. Paul Okalik a joué un rôle prédominant dans la création du Nunavut. Louis McCumber a mené une série d'entrevues avec lui alors qu'il était ministre de la Justice du Nunavut. Paul Okalik se dévoile dans ce récit qui oscille entre autobiographie et essai historique et conserve une part de son originalité, originelle. Monsieur Paul Okalik est né en 1964. Il a passé une partie de sa jeunesse dans le pensionnat indien d'Iqaluit. Il sera plus tard expulsé de son école pour consommation d'alcool, un problème avec lequel il devra longtemps se battre. Il a un côté bom, souligne Monsieur McCumber. Ça ne l'empêche pas de participer aux négociations territoriales du Nunavut et ensuite d'obtenir un baccalauréat en sciences politiques et en études canadiennes de l'Université Carleton à Ottawa, puis d'être reçu au barreau des territoires du Nord-Ouest en 1999. Cette même année ont lieu les premières élections du Nunavut, nouveau territoire, créé à partir des TNO en 1993, donc les territoires du Nord-Ouest, bien sûr, en 1993, et Paul Okalik en devient le premier ministre. Il fera deux mandats et occupera aussi les postes de ministre de la Justice et de la Santé. En 2017, il démissionne du cabinet en signe de protestation contre l'ouverture d'un magasin d'alcool à Iqaluit, alors qu'aucun centre de traitement n'existe au Nunavut. La même année, lors des élections d'octobre, il perd son siège de député d'Iqaluit Sinar. Okalik a une pensée très libérale, de dire M. McCumber, sur le mariage gay, les LGBTQ. C'est un environnementaliste, un libéral à la Trudeau. Selon M. McCumber, Paul Okalik est un personnage déterminant de l'histoire du Nunavut, mais sans avoir le charisme de l'actuel premier ministre de ce territoire, Paul Kassa. Let's Move On est le douzième livre de M. McCumber consacré à donner la parole à des leaders déterminants de l'histoire du Nunavut. Il a, dit-il, voulu donner des références aux jeunes Inuits ayant davantage de littératie que leurs parents. alors que ses 11 premiers titres ont été publiés chez Nunavut Arctic College, celui-ci paraît chez l'éditeur montréalais Baraka Books. Anthropologue de formation, Louis McCumber a demeuré au Nunavut de 1993 à 2005 et il a collaboré à l'Aquilon, au Nunatsiak News et à CBC North. Le Nunavut d'aujourd'hui ne ressemble certainement pas à ce que ses fondateurs ont espéré et nombre de ses citoyens, affirme Louis McCumber, auraient souhaité que la séparation d'avec les territoires du Nord-Ouest, où le poids démographique des Autochtones a considérablement diminué, n'ait jamais eu lieu. Il parle d'incroyable espoir et d'incroyable désillusion. Les indicateurs sociaux sont dans le tapis, s'exclame Louis McCumber. C'est pire qu'au moment de la séparation avec les territoires du Nord-Ouest. Les conditions de vie se sont détériorées. Le Nunavut est le parent pauvre du développement arctique, même en comparaison de la vallée du Mackenzie. Le torchon brûle sur la question des langues. Les promesses financières non tenues du gouvernement fédéral sont une cause majeure de ce marasme, selon l'anthropologue. Des 600 millions de dollars promis lors de la création, le Nunavut n'en aurait reçu que 25%. Nunavut Tungavik Inc. a plus tard poursuivi le fédéral pour 1 milliard de dollars et obtenu 255 millions en compensation en 2015. Ce modèle a-t-il pour autant alimenté le refus de l'autonomie proposée aux habitants du Nunavik en 2011? M. McCumber ne le croit pas. Analysant le non comme une crainte de tomber encore davantage sous le joug du Québec. Ça a été une erreur formidable du Nunavik, croit-il. Avec la paix des braves, les Cris ont joué le jeu du Québec et ont dépassé les Inuits en termes de développement. Alors si ce livre vous intéresse, Let's Move On, aux éditions Baraka Books, c'est sorti en mai 2018 et je vous rappelle que c'est le livre de M. Louis McCumber, McCumber. Tiens, dans le moniteuracadien.com, j'ai trouvé ce très court papier pour finir qui s'intitule « Souligner l'arrivée d'un enfant grâce au programme Un arbre pour la vie ». Le programme Un arbre pour la vie qui vise à rendre le paysage de Dieppe plus vert et souligner l'arrivée d'un enfant est de retour pour une troisième année consécutive. La ville de Dieppe est fière de souligner la venue d'un enfant en offrant gratuitement à sa famille un arbre qui, au fil du temps, grandira à ses côtés. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ce programme s'adresse aux résidents de Dieppe qui ont adopté ou donné naissance à un enfant en 2017. Un seul arbre par enfant sera remis aux parents. En acceptant de planter cet arbre, les nouveaux parents contribuent à l'histoire de la collectivité, en plus d'embellir le milieu de vie et d'offrir un environnement plus sain aux prochaines générations. Les nouveaux parents peuvent prendre connaissance des conditions et remplir le formulaire de demande au dieppe.ca avant le 11 mai 2018. Si votre demande est retenue, la municipalité vous contactera pour déterminer quelle essence d'arbre peut être plantée sur votre terrain en fonction de l'espace disponible et de la disponibilité des espèces d'arbres. Voilà, on ne nous précise pas ce qui se passe si vous avez des jumeaux ou des triplés. Un arbre, deux arbres, trois arbres, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà mes amis, c'est sur cette nouvelle réjouissante que je vous abandonne cette semaine. Je vous souhaite celle qui va venir très belle, un peu plus chaude, de plus en plus chaude. Et je voudrais remercier mon camarade Mathieu Tessier en régie encore aujourd'hui de m'avoir solidement appuyé. C'était Clotilde Seille sur Canal M qui vous souhaite une très belle semaine, tiens, une très belle fin de semaine.